L'aspect ou le goût, et j'assure cette conservation, je facilite la mise en forme et l'administration du principe actif. J'ai l'aval de l'OMS, l'organisation matinale du son. Je suis Jean-Jean l'excipient. Bien le bonjour, chers auditeurs de Principe Actif et Rouage d'air. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 janvier 2022. Bonne fête, Prisca. Moi, personnellement, des Prisca, j'en connais pas. Mon invité me fait signe qu'il en connaît. Des Caprice, oui, mais des Prisca, non. On va débattre de cela. Au sommaire de cette matinale, eh bien, nous nous transportons plus de 20 siècles dans le passé, au cœur de Mediolanum, Aulercorum. Les fouilles sont légion, et notamment celle du quartier Saint-Louis. Pas moins d'une douzaine d'archéologues, peut-être davantage, suscitent les interrogations des patients. Des passants, ça c'est pour le côté peut-être, ouais, mais je sais pas. Et justement, pour en parler ce matin, nous recevons à nos micros Pierre Vesch, qui est responsable d'opération de la MADE. La MAD, c'est la Mission Archéologique de l'Eure. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés ce matin pour, effectivement, pour parler de fouilles archéologiques. Parce que ça suscite quand même des interrogations. Les gens passent. On a du mal à voir ce qui se passe dans cet îlot Saint-Louis. Et vous êtes là ce matin pour, justement, répondre à nos interrogations. Pierre.
Avec grand plaisir.
Eh ben voilà. Mais le plaisir est partagé. Vous retrouverez également Mr. Fred et sa chronique, du bon son bien évidemment, de la bonne humeur, peut-être du répondeur ou peut-être pas, hein. Bon, ça c'est vous qui voyez, les auditeurs. En tout cas, c'est le pire reste à venir. Le matin c'est 8h, 9h en direct pour les leftards, c'est rediffusion 11h midi, puis après ça part directement en podcast, hein, sur le site www.principeactif.net. Vous pouvez podcaster l'émission, la télécharger, la réécouter, enfin etc, etc. Sinon, les fréquences, on les rappelle, les fréquences de FM. En ce qui concerne notre radio Principe Actif, c'est le 102.4 sur Évreux Grande Périphérie, le 95.9 dans le sud de l'Eure, et puis nos amis de Rouen HDR, coucou les Rouennais, 99.1. Excellente journée à toutes et à tous, à l'écoute des programmes, à l'écoute de nos programmes Principe Actif et Rouen HDR. Allez, assez les blablas, allez, on envoie un peu de musique. Ok.
Is there anybody there?
Ouais, Jean-Jean, ouais.
Petite pensée pour Rachel Nagy des Détroit Cobras qui vient de nous quitter il y a quelques jours de cela à l'âge de 37 ans. Un groupe qui nous arrive tout droit de Détroit, oui, les petits copains des White Stripes par exemple, hein, parce qu'ils ont signé plusieurs albums d'ailleurs sur le label Sympathy for the Record Industry. Et Détroit Cobras, bah, c'est beaucoup de reprises, enfin... à leur sauce, des Marvelettes, des Shirelles, des groupes 60s, voilà, des Américains. Donc, Rachel Nagy, on t'embrasse.
Le pire.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Y a-t-il du répondeur?
Ouais, salut la matinale.
Hi, Principe Actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Ben voilà, 8h07, hein, 8h passées de 7 minutes, pas de répondeur ce matin, n'hésitez pas en tous les cas, on vous rappelle que vous pouvez laisser vos messages sur notre répondeur, vous nous donnez vos avis, vos réactions, des informations locales, des coups de gueule, des coups de cœur, des remarques ou bien des annonces d'événements, ou tout simplement de vos nouvelles. Salut Principe Actif, moi je vais bien, salut. Le numéro de téléphone, je le rappelle, le 02 32 62 57 32, 02 32 62 57 32. Oh Mr. Fred, Mr. Fred. Petite chronique, salut Mr. Fred.
Qui n'a jamais rêvé d'être Indiana Jones? Qui n'a jamais rêvé de vivre les aventures d'À la poursuite du diamant vert, d'Alan Caterman et la cité de l'or perdu? Moi, en tout cas, j'en ai rêvé et plus d'une fois. Trouver des pièces d'or, des reliques perdues dans des lieux abandonnés. Mais une fois réveillé, c'est une toute autre histoire. J'avais déjà amorcé le sujet dans l'une de mes chroniques précédentes sur la découverte de vieilles tablettes qui correspondent à des partitions musicales. Quand la National Geographic Society a accordé sa première bourse d'archéologie à Hiram Bingham en 1912, l'archéologue partait en direction du Machu Picchu avec l'un des appareils technologiques les plus avancés de l'époque, un appareil photo Kodak Panoramix. Plus d'un siècle plus tard, les archéologues ont à leur disposition un fabuleux arsenal d'outils allant des appareils de télédétection permettant de voir là où nos yeux ne vont pas aux ordinateurs si puissants qu'ils peuvent étudier en une seconde ce qui prendrait des milliers d'années à l'être humain. Toutes ces découvertes éclairent le monde. Au cours des deux derniers siècles, notre compréhension du passé de l'humanité s'est considérablement enrichie à mesure que des fouilles sur 6 continents ont permis de découvrir les histoires de nos ancêtres. Aujourd'hui, on pense pouvoir tout comprendre. Or, il s'avère que certaines découvertes archéologiques restent énigmatiques, même pour les plus grands cerveaux contemporains. Je vais donc vous raconter quelques-unes de ces histoires. L'Atlantide du Japon. Les ruines d'une ville ancienne, dont on dit qu'elle a au moins 5000 ans, sont submergées dans les eaux au large de la côte de Yonaguni-jima au Japon. Certains chercheurs pensent que le site est l'ancienne ville de la culture Jomon. Mais d'autres pensent que les pierres géantes, avec leurs angles droits, ne sont qu'un phénomène naturel étrange. Chaque fois qu'il y a des ruines d'une ville antique trouvée sous l'eau, les gens la relient immédiatement au mythe de l'Atlantide, la légendaire ville sophistiquée qui est tombée dans l'océan en un seul jour. Les scientifiques qui étudient le site de Yonaguni-jima croient cependant que l'élévation du niveau de la mer a fini par engloutir la ville côtière et qu'elle n'a pas été victime d'un événement cataclysmique. Les ruines sont une découverte récente. Un plongeur est tombé par hasard sur les pierres géantes en 1995. Et bien que de nombreuses personnes maintiennent encore que les ruines ne sont rien de plus que des formations rocheuses naturelles, il est difficile d'expliquer une entrée arquée et un escalier en pierre comme étant des formations naturelles. Les murs de la forteresse Sacsayhuaman. Des pierres de plus de 200 tonnes forment les murs de la forteresse de Sacsayhuaman à Cusco au Pérou. La forteresse est antérieure à l'Empire Inca, mais les recherches n'ont pas permis de dater avec précision la structure. La qualité de réalisation est impressionnante. Les blocs s'emboîtent parfaitement, comme s'ils étaient façonnés. Il n'y a aucune preuve sur le site qui indique comment les pierres géantes ont été sculptées et mises en place. Encore aujourd'hui, cela nécessiterait une équipe d'experts et une main-d'œuvre considérable. Les habitants de la région racontent une légende qui dit qu'un liquide extrait d'une plante indigène rend les pierres plus légères et plus malléables. La légende continue en précisant que les roches ont été chauffées à une température élevée qui les a forcées à s'emboîter parfaitement les unes dans les autres. Bien que les archéologues ne sachent pas vraiment comment la structure a été construite. Ils ont la preuve que le site a été utilisé comme lieu de culte, un temple, et que diverses cérémonies s'y sont déroulées dans le monde antique. Je pourrais vous en raconter des dizaines et des dizaines, mais une m'a particulièrement interpellé. C'est l'histoire du trésor des Templiers en Vexin normand à Gisors. Le trésor des Templiers serait-il en Normandie ? C'est en tout cas une légende qui a pris place au château de Gisors. Cette forteresse normande a accueilli trois chevaliers de l'ordre du Temple entre 1158 et 1161, bien avant l'arrestation des chevaliers sur demande de Philippe le Bel. C'est à partir de ce séjour en Normandie que débuta une légende selon laquelle Gisors, dans le Vexin normand, serait la clé pour découvrir l'emplacement secret du trésor des Templiers. Cet ordre religieux avait seulement pour mission de protéger la route du pèlerinage vers Jérusalem. Mettant en place de nombreuses commanderies en Orient comme en Occident, le mythe sur la richesse des Templiers grandit avec l'ordre jusqu'à sa mise à mal en 1307 par le roi de France. De nombreuses fouilles furent réalisées au château de Gisors, laissant le doute pour certains sur l'existence ou non de ce fameux trésor. Les fouilles sont sans succès jusqu'en 1950. Le gardien du château Roger Lomoy entreprit de creuser un puits et d'explorer les souterrains et cavités. Le souterrain était tellement profond et dangereux que personne ne voulut descendre. Les cavités furent rebouchées et l'éventualité d'un trésor aussi. Voilà, le voyage est terminé, je vous souhaite une bonne semaine.
Passionnant, intéressant, cette chronique de Mr. Fred, Pierre Vesch.
Exactement, la chasse au trésor.
Une petite réaction, là, cette histoire de... Vous saviez qu'il y avait un... On cherchait le trésor des Templiers, peut-être qu'il était du côté de Gisors.
C'est une légende, effectivement, qu'on a tous entendue à un moment ou à un autre.
Ouais.
Mais l'introduction est très intéressante. Ça permet justement de faire le distinguo entre les chercheurs de trésors et les archéologues, qui cherchent aussi des trésors, mais pas ceux qu'on imagine la plupart du temps.
Alors, ce matin, nous sommes en direct dans les studios de Principe Actif pour parler de fouilles et plus particulièrement des fouilles archéologiques du côté de l'îlot Saint-Louis, en plein cœur d'Évreux. Et nous sommes en compagnie de Pierre Vesch, qui est responsable d'opération MADE, la mission d'archéologie de l'heure, c'est ça,
exactement.
Pour être très précis. Alors, quand on est responsable d'opération, ça consiste en quoi exactement, Pierre ?
Ça consiste à mener à bien des opérations d'archéologie, réaliser les fouilles, diriger les équipes qui concrètement effectuent les gestes archéologiques, à parler également de nos découvertes, ce que je fais aujourd'hui, à écrire des articles, des livres, faire des conférences, essayer de faire découvrir aux gens ce qu'on trouve, puisqu'on ce qu'on fouille n'est pas que pour nous, c'est un bien public, un bien commun qu'on essaye de valoriser, de faire découvrir aux gens que ça intéresse, évidemment.
Pour en arriver là, on passe par quel parcours universitaire, je pense,
universitaire,
j'imagine, plutôt dans l'histoire, plutôt.
Il y a plusieurs options en fait, en fonction des universités qu'on est amené à fréquenter. Il y a des cursus d'archéologie propre et des universités qui proposent des cursus d'histoire avec des options archéologiques.
Ouais.
Mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome.
Oui, justement.
L'essentiel, c'est la passion.
Eh ben justement, Rome ou plutôt le côté gallo-romain, on va en parler parce que alors on est les descendants des Olerci Eburui ici.
Les Olerques et Burovis, si on francise, effectivement.
Si on francise, voilà. Et Évreux, c'était Mediolanum Olercorum.
Exactement. Les Olerques et Burovis, c'était à l'origine un peuple gaulois qui occupait le secteur d'Évreux, qui a été élevé en tant que cité à l'époque des Romains, quand les Romains ont organisé la Gaule. Et Évreux est devenu à cette époque le chef-lieu, la capitale, si vous préférez, de ce peuple.
Donc cette histoire-là, elle débute au moins presque un siècle avant Jésus-Christ, quoi. On a des retours, justement, c'est pour... grâce à vous, peut-être.
En partie, mais grâce à moi, grâce à mes prédécesseurs aussi, puis grâce à mes successeurs aussi un jour. Bon. C'est effectivement, on a des premières traces d'occupation archéologiques à Évreux dans la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ.
La seconde moitié. Alors, c'est ça, c'était la question, c'est ces investigations, elles débutent quand à Évreux, ça démarre quand? Les premières prospections archéologiques, ça démarre... est-ce que c'est après-guerre? Est-ce que c'est avant la guerre?
Bien avant la guerre. On va distinguer les érudits et les chercheurs de trésors anciens,
si je peux me
permettre. Ouais. Des gens qui ont vraiment fait les premières fouilles, qui ont laissé des traces de leurs fouilles avec des plans, avec des relevés. Donc là, on est plutôt au début du 19e siècle.
Début 19e. Voilà.
Et la recherche, ben, c'est poursuivi en fonction des bonnes volontés. On est vraiment dans dans ce domaine-là initialement. Et l'archéologie est devenue beaucoup plus systématique et beaucoup plus professionnelle à partir des années 70-80, essentiellement.
Alors, qu'est-ce qui a changé dans le fait d'occuper des espaces pour les fouilles archéologiques? Il y a des lois qui sont apparu, parce que la ville d'Évreux est une ville pratiquement entièrement reconstruite d'après la guerre de 39-45. Est-ce qu'à l'époque, on pouvait reconstruire sans faire de fouilles, etc., aller directement reconstruire les bâtiments sans se poser de questions? Maintenant, c'est ça. Et ça date de quand, ça, ces lois
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Les principales lois, en l'occurrence, qui structurent l'archéologie actuelle, c'est les années 90 et le début des années 2000. Mm-hmm. Alors, beaucoup de gens qui passent sur le site Saint-Louis me demandent, mais à l'époque, quand ils ont construit l'hôpital dans les années 60, il n'y a pas eu de fouilles? Ben non, les lois n'étaient pas les mêmes, il n'y avait pas l'obligation. Et pour répondre à votre remarque sur l'après-guerre, j'ai retrouvé dans les documents d'archives des lettres de personnes qui signalaient aux autorités compétentes la découverte de vestiges au moment des travaux de reconstruction.
Oui.
Et la réponse des autorités à l'époque avait été, vous savez, on a d'autres chats à fouetter en ce moment. Mm-hmm. Clairement, la reconstruction était prioritaire.
Ouais. Sans savoir ce que à quoi ça correspondait. On savait quand même que c'était les vestiges datés de l'époque d'il y a 2000 ans ou plus de 2000 ans.
Tout à fait. Ben, nos prédécesseurs du 19e siècle, notamment, avaient déjà une bonne connaissance de la culture matérielle de ces époques-là. Mm-hmm. Et les fouilles qu'ils avaient faites avaient déjà mis au jour, ben, notamment les vestiges du théâtre romain d'Évreux, qui se trouve sous la rue L'Épousée. Il y avait des éléments assez monumentaux qui avaient été mis au jour au pied de la cathédrale, dans plein d'endroits. Donc ils avaient une connaissance de l'existence de la ville d'Évreux, mais pas dans le détail. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait une ville, on connaissait pas sa physionomie, on ne savait pas comment elle avait évolué dans le temps, on ne savait pas où étaient les principaux monuments, en tout cas pas tous. Et petit à petit, c'est un puzzle qu'on s'attache à compléter au fil des découvertes.
Mm-hmm. Le projet d'aménagement Saint-Louis, on appelle ça l'îlot.
La ZAC Saint-Louis.
La ZAC Saint-Louis, voilà, c'est ça. Donc il y a les fouilles en amont sur l'ancien hôpital. Vous le disiez à l'instant, l'ancien hôpital a été construit dans les années 60.
Exactement.
Enfin, des années 50, début des années 60.
Entre 63 et 78.
D'accord. Et donc à cette époque-là, on savait pertinemment qu'il y avait des sites archéologiques.
Il n'y avait pas d'obligation de faire procéder au préalable comme c'est le cas aujourd'hui.
Est-ce que ça a été la même chose sur d'autres sites dans la ville d'Évreux, sur d'autres bâtiments,
des sites qui ont été détruits, on va dire
qui ont été construits.
Oui, jusqu'aux années 90, effectivement, il y avait très très peu. On était soumis aux bonnes volontés locales qui pouvaient éventuellement effectuer des surveillances de travaux ou observer des choses pendant les terrassements. Mm-hmm. Mais à l'époque, on appelait ça l'archéologie de sauvetage. Et ça portait bien son nom, du reste.
Et qui a été porteur de ce projet de loi, de cette loi
Non, mais j'avoue, j'ai pas le nom en tête. J'ai pas révisé.
Mais pas du tout. Par contre, donc vous le disiez, ça date des années 90.
Et ça s'est concrétisé en 2001 par la création de l'Institut national de recherche archéologique préventive, nos collègues de l'État, qui ont pendant très longtemps exercé ils ont réalisé la totalité des opérations d'archéologie de sauvetage. Mm-hmm. Qu'on appelle aujourd'hui archéologie préventive. Mm-hmm. Donc jusqu'aux années 2000, jusqu'au début des années 2000, c'est eux qui faisaient tout. Et en 2003, après on en pense le bien qu'on en veut, en 2003, il y a une loi qui est passée, qui a ouvert le secteur de l'archéologie préventive à la concurrence, en multipliant les opérateurs
privés,
entre autres, et publics, comme le département de l'Eure, pour lequel je travaille.
Et alors en termes de délai, quand vous investissez, quand vous arrivez sur un site, il y a un délai. Vous restez combien de temps? Ça peut durer des années ou alors à un moment donné, attendez, vous avez 2 ans pour trouver le maximum de choses et les mettre au jour.
C'est une très bonne question. Ça va me permettre de ruiner une image d'Épinal. Les archéologues ne sont pas des doux rêveurs qui font un peu ce qu'ils veulent quand ils le veulent.
Avec le petit pinceau.
Le pinceau, on peut s'en servir quand il y a un besoin particulier, mais on est plus souvent avec une pelleteuse de 20 tonnes.
Ah oui, quand même.
Ça surprend.
Encore une image d'Épinal qui tombe.
Mais on adapte l'outil à ce qu'on fouille, évidemment. Mm-hmm. Mais quand on est sollicité pour un chantier, on a un cahier des charges qui est émis par les autorités compétentes de l'État, donc le service régional de l'archéologie. Mm-hmm. Et quand on répond à ce cahier des charges, on rend un projet scientifique et technique qui inclut un planning. auquel on doit se tenir, comme j'ai envie de dire, comme toute entreprise du BTP.
Ouais.
Quelque part, en fait, quand on...
Donc vous avez des délais à respecter.
On a des délais à respecter. Ouais.
Par exemple, un projet contractuel comme celui, comme le chantier qui est actuellement à Saint-Louis, sur sur l'ancien hôpital d'Evreux, c'est un chantier qui doit durer combien de temps au maximum ?
Alors, c'est un chantier qu'on a commencé à la fin du mois d'août 2021,
ouais.
et qui est prévu pour durer 18 mois.
Ouais.
C'est une durée qui est extrêmement longue pour une raison toute simple. Il y a une surface très importante à fouiller.
Mm-hmm.
On est en cœur de ville.
On est sur plus d'un hectare, là.
Oh, oui.
Ouais, c'est ça.
Avec des niveaux archéologiques qui sont superposés.
Parce qu'il y a des couches.
Exactement. Jusqu'à 3 mètres d'épaisseur, voire au-delà. Et plus c'est épais, plus c'est complexe, plus ça prend de temps à fouiller.
Et donc, et chaque couche correspond à une période, une époque, c'est-à-dire que plus on creuse, plus on atteint le côté gallo-romain, c'est
en
ça?
En toute logique, plus c'est profond, plus c'est ancien.
Plus c'est ancien, ouais.
Moi, je compare souvent les niveaux archéologiques aux pages d'un livre. Vous savez, quand vous tournez la page du livre, vous passez à la suite de l'histoire. L'archéologie, c'est la même chose, mais à l'envers. On retire les couches comme on tournerait les pages du livre.
Ouais, c'est ça.
Et on déroule l'histoire que le terrain veut bien nous raconter.
C'est passionnant, Pierre Vech, donc je rappelle, vous êtes responsable d'opération à la mission archéologique de l'Eure. Vous êtes ce matin avec nous dans les studios de Principe Actif, à l'écoute de Principe Actif et de Rouen HDR. Et bien, écoutez, je vous propose une pause musicale et on se retrouve juste après
à
ça.
Talking in tongues, I began to preach. White falls from the branches, an apple, a peach. Hold on to me. There's a red alert. It's the way you make me feel magnificent.
Ça fait du bien d'écouter Elvis Costello, un extrait de son dernier album, 32e album, quand même, The Imposter Magnificat, ou quelque chose comme ça.
Le pire est
Toujours en direct de la matinale du matin qui va bien, le pire reste à venir. Carpe diem, vivons l'instant présent, nous sommes bien, tout va bien Pierre.
Ah bah, toi, moi, je suis au chaud et j'ai d'ailleurs une pensée pour mes collègues qui sont sur le terrain en ce moment.
Ah ben voilà.
Alors il suffit de regarder dehors, je pense qu'ils se gèlent les extrémités, pour rester poli.
Uniquement les extrémités, voilà, ou l'ensemble
donc,
de la carapace.
Donc tout le monde, toute l'équipe, vous m'écoutez sûrement, j'ai une pensée pour vous.
Et ben voilà, on salue donc toute l'équipe d'archéologues. Ils sont au nombre de combien en ce moment là sur ce chantier à l'îlot, à la ZAC Saint-Louis, l'îlot Saint-Louis?
En moyenne, on est une douzaine, on a une petite pointe à 15 personnes, parce qu'on essaie de répondre aux urgences, mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont 12.
D'accord. Et ils écoutent Principe Actif et ils écoutent...
Ils ont pour consigne ferme d'écouter Principe Actif.
Bah, bien sûr.
Il y aura interrogation écrite quand j'entends sur le terrain.
Ah, carrément, il y a un côté comme ça quand même, hein. Attention. Hein. Bon, donc c'est très très intéressant parce qu'on parle effectivement des fouilles archéologiques qui se déroulent en ce moment, mais qui ont démarré l'année dernière, pour une période au moins de 18 mois, c'est ça?
Exactement, on a fixé un calendrier de 18 mois qui a été validé par tout le monde, sauf élément exceptionnel insoupçonné, c'est un calendrier qu'on est censé tenir. Voilà. Ouais. S'il y a un souci, ce sera validé par les différents intervenants parce qu'il y a un motif réel et légitime.
Est-ce que c'est fréquent justement? Ah ben là, on découvre un truc, mais attendez, mais ça c'est le joyau, c'est le... Comment on a...
C'est Pompéi,
on découvre Pompéi à Évreux et on a besoin, on a besoin de deux années supplémentaires. C'est jouable ou pas?
Dans ces proportions-là, non, ça n'arrive quasiment jamais. Qu'on ait des fois des petits retards parce qu'il y a eu plus de choses que prévu, on n'a jamais la certitude à l'avance de ce qu'on va trouver et surtout des proportions dans lesquelles on va le trouver. Ouais. Donc de temps en temps, bah oui, il y a un peu plus que prévu, donc c'est des petits ajustements. Alors tout dépend de l'échelle du chantier. Si c'est un chantier qui dure 18 mois, ça peut être un ajustement d'un mois, par exemple. Si c'est un chantier de 2 mois, ça sera un ajustement d'une semaine ou deux. Enfin, c'est proportionné.
On n'est pas tellement amis avec les promoteurs, alors?
Les
constructeurs,
pas forcément.
C'est un peu compliqué. C'est pas de votre faute en plus, mais
c'est pas notre faute parce que nous on est juste opérateurs. Ce sont les services de l'État, chers amis de l'État, qui imposent la réalisation des fouilles aux promoteurs parce que le projet menace de détruire des vestiges. Donc nous après on répond à la demande, c'est-à-dire que c'est pas nous qui choisissons de fouiller à tel ou tel endroit et dans telle et telle condition. On est un opérateur économique. J'aime pas ce mot-là. Moi, je fais de l'archéologie.
Fouille des vestiges, donc c'est effectivement les bâtiments, les structures, mais c'est aussi de trouver. Alors, ça va de la céramique, des ossements, des métaux. Qu'est-ce qu'on trouve?
Tout ce que nos ancêtres ont bien voulu nous laisser, en fait. On dit souvent qu'on fouille les poubelles de l'histoire. C'est pas faux du tout. Beaucoup de céramique, des petits objets en métal, les ossements, alors que ce soit les restes de repas ou les petits objets qui ont été façonnés en os. Ouais. De temps en temps, on a la chance de trouver des restes en matière organique, c'est beaucoup plus rare, ça se conserve beaucoup moins bien, du cuir, du bois. On va avoir des matériaux de construction, du mortier, de la brique, des tuiles, un petit peu tout le panel des choses de l'époque.
Et tout ça, dites-moi Pierre, ça part où après alors?
Alors dans un premier temps...
C'est exposé ou alors dans un...
Tout n'est pas exposé, c'est-à-dire que le moindre petit bout de céramique pour nous est intéressant, nous donne une information, mais ça passionnera pas les foules, il faut pas se leurrer. Par contre, voilà, tout remonte dans un premier temps au moins dans les locaux de la mission archéologique départementale pour être étudié, inventorié, et après on stocke ça. Mais en théorie, si c'est pas nous qui le stockons, c'est censé être rétrocédé au service de l'État qui en assure la conservation.
On le disait tout à l'instant hors micro, donc il y a effectivement une journée, on va dire entre guillemets porte ouverte, ou une journée de visite ou de c'est pour présenter un peu les travaux. Est-ce que vous avez déjà trouvé, mise à jour, ça va se dérouler samedi 22 janvier. Vous me disiez en antenne qu'il y a une jauge qui est assez qui est peu importante et donc c'est un peu compliqué. C'est sur réservation
effectivement. Il faut contacter pour ça mes collègues de la mission archéologique qui centralisent les appels. Effectivement, on a malheureusement vu les circonstances, on va pas rappeler, je pense que tout le monde est au courant, il y a un petit virus qui traîne. On a programmé mes trois visites le samedi après-midi, 14h, 15h et 16h, avec des jauges, les fameuses jauges dont tout le monde entend parler en ce moment. Et malheureusement ou heureusement, question de point de vue, ces visites sont déjà quasiment pleines, je crois.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir, les personnes privilégiées, entre guillemets, pourront voir et pourront admirer, observer.
Petit effet d'annonce, on a des vestiges gallo-romains, forcément. On a commencé à mettre au jour des restes de maisons antiques. On a notamment les restes d'un hypocauste. Alors là, j'emploie un terme un peu étrange, sans doute. En bref, un hypocauste, c'est un système de chauffage par le sol gallo-romain.
Déjà, à l'époque?
Oui, tout à fait. Ouais. Ah non, mais c'est, ils avaient tout le confort moderne. Enfin, surtout les franges un peu aisées de la population avaient ça.
C'est ça.
Entre autres choses, on pourrait également découvrir les vestiges de l'église Saint-Louis, qui a donné son nom à l'îlot.
Oui.
À l'îlot, il y a la ZAC. Mm-hmm. Et avec l'église, quelques traces, j'en dis pas plus, du cimetière qui était associé au couvent de l'église.
D'accord. Bon, on sait pratiquement comment était composée cette bonne vieille ville d'Évreux il y a 2000 ans.
On a quelques idées, oui, effectivement. On connaît à peu près son extension. On commence à avoir des idées sur l'organisation urbaine, donc la trame de rue. Il y a plusieurs rues qui ont été mises au jour depuis quelques décennies, mm-hmm. mais il y a encore beaucoup de points sombres. On est là pour éclaircir tout ça.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir
oui.
sur l'îlot Saint-Louis?
Oui, on est sûr et certain.
On
n'est pas au bout de nos surprises, effectivement.
Tous les jours, vous êtes subjugué par les découvertes. Vous êtes
alors subjugué. Malheureusement, il y a une petite routine qui s'installe quand oui. on fait ce métier depuis. Moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Mm-hmm. Mais non, c'est une joie renouvelée, effectivement. Je ne vais pas vous mentir. Moi, chaque jour est différent du précédent. Chaque jour apporte son petit lot de découvertes qui on peut s'extasier dessus. Le quidam moyen va se dire bon, c'est un bout de terre cuite quoi.
On se pose la question souvent, on se dit mais il y a 2000 ans, peut-être moins, quel était le bourg le plus important? Est-ce que c'était le vieil Évreux, Gisacoum, ou est-ce que c'était Évreux, centre-ville?
Ça, c'est une bonne question. A priori, donc, d'après les hypothèses qu'on a actuellement, ce sont deux sites qui étaient liés, hein, d'un point de vue fonctionnel, qui ont évolué de façon parallèle. En fait, il faut imaginer sans doute à Évreux la capitale politique, économique, et au vieil Évreux, donc à 6 km à vol d'oiseau, la capitale religieuse. On avait sans doute un site bipolaire. Donc les deux sont liés, il n'y en a pas un plus important. Il y a plus de population sans doute à Évreux,
oui.
mais les deux sites sont indissociables.
D'accord. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'on appelle le label Ville d'Art et d'Histoire. C'est quoi le label Ville d'Art et d'Histoire? Parce que Évreux, je crois,
Évreux concourt au label Ville d'Art et d'Histoire.
Elle n'a pas encore le label, elle concourt au label.
À ma connaissance, et pardon aux collègues de la ville si j'ai raté un épisode, mais à ma connaissance, non, le label n'a pas encore été attribué. Mm-hmm. Les collègues de la ville travaillent d'arrache-pied pour l'obtention de ce label qui permettrait de valoriser le travail.
Et c'est au vu de toutes ces découvertes qui sont en fait réalisées depuis toutes ces années?
Entre autres choses, c'est-à-dire que là, il y a art et histoire, mais c'est aussi tout ce qui est spectacle vivant, patrimoine, musée. Effectivement, l'archéologie concourt modestement à la chose.
On a dans la ville d'Évreux, si on veut, en dehors de cette journée de samedi du 22
qui sera suivie d'autres journées de
alors voilà, qui sera suivie d'autres journées, parce que comme il y aura beaucoup beaucoup de monde et il y a des personnes qui souhaiteraient venir aussi mais qui peut-être ne pourront pas ce samedi là venir visiter vos fouilles, vos travaux réalisés, où est-ce qu'on peut si on est intéressé voir ailleurs dans d'autres je connais la réponse, mais c'est toujours bon, c'est toujours bon de le dire, de le rappeler. Où est-ce qu'on peut aller visiter les vestiges de la ville d'Évreux?
Au musée d'art, d'histoire et d'archéologie de la ville d'Évreux, donc dans l'ancien évêché à côté de la cathédrale. Et alors là, c'est plus tout à fait Évreux, c'est le vieil Évreux, mais je vous invite également, parce qu'il y a en fait, comme je vous disais, les deux sites sont indissociables, allez visiter le site de Gisacoum sur la commune du vieil Évreux. Le site rouvre le 1er mars. Et cette année, on fête d'ailleurs les 20 ans du jardin archéologique de Gisacoum. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup d'animations autour des jardins.
Est-ce qu'il y a toujours des fouilles à Gisacoum?
Toujours,
ça continue.
Tous les ans, il y a une campagne de fouilles annuelle qui a lieu sur le grand sanctuaire et qui fait aussi l'objet tous les ans de visites, de chantiers à l'occasion des journées du patrimoine notamment.
On n'est pas là, c'est pas la même chose. Il y a pas dans le temps, on n'a pas un délai à respecter.
Exactement.
La saison reprend chaque année en fait. La saison de fouilles.
C'est ce qu'on
reprend.
Appelle les fouilles programmées. Ce sont pas des fouilles qui sont motivées par un geste destructif. Il n'y a pas d'aménagement qui va détruire le vestige. C'est là, on est dans la recherche pure et dure, on a plus le temps, effectivement, des conditions un peu plus propices, mais on exerce le même métier.
Bien, Pierre Vèche, responsable d'opération de la mission archéologique de l'Eure, et toujours un coucou à vos collègues qui sont dans le froid en train de... Alors, il y en a qui sont dans... Certains sont dans la grosse pelleteuse d'Iton, et d'autres sont
à genoux
avec le pinceau ou la truelle.
Exactement.
Ouais.
Certains avec la pioche, j'imagine.
Ouais.
Oui, effectivement, à genoux avec le pinceau, surtout pour ceux qui fouillent les sépultures par des températures pareilles, c'est pas le plus simple.
Oui, c'est ça, on parlait tout à l'heure, effectivement, des gestes techniques et des outils, des ustensiles, des outils utilisés, bah forcément c'est pas le. Quand est-ce qu'on utilise plutôt la grosse pelleteuse et quand est-ce qu'on utilise le petit pinceau
Alors la grosse pelleteuse, c'est quand on va avoir à dégager par exemple des quantités assez importantes de remblais, par exemple des remblais contemporains. Les remblais de construction de l'hôpital dans les années 60 sont d'un intérêt un peu limité, mais il faut les retirer pour accéder au vestige qui est dessous ou derrière. Donc pour s'épargner du temps et de la peine, on utilise du coup les engins sous la surveillance des archéologues et on demande aux chauffeurs d'engins de s'arrêter au sommet des niveaux archéologiques. Ça peut être également des gros remblais gallo-romains. Les remblais par essence sont des apports extrêmement massifs de matériaux qui n'ont pas une quantité folle d'informations à nous livrer. Par contre, dès lors qu'on arrive sur des niveaux qui nécessitent une approche plus fine, là, c'est manuel, pelle, pioche, truelle. Et quand on a vraiment un vestige extrêmement fin et délicat, comme les sépultures, par exemple, c'est quand même le principal moment où on va sortir le fameux outil de dentiste, la petite cuillère et le ouais. pinceau. Ben là, oui, effectivement, on change de braquet et on est d'une minutie extrême.
Ouais. Vous parliez à l'instant justement des remblais, peu intéressants des années 60 pour l'hôpital, mais à l'époque, est-ce qu'on découvre des remblais qui étaient un peu polluants, utilisés à l'époque dans les années 50, années 60, qu'on ne pourrait plus utiliser aujourd'hui parce que pollution.
Complètement interdit. Le site de la Saxe-Saint-Louis a été démoli en 2019-2020 et normalement dépollué.
Oui.
Mais les pollutions, le crible des démolisseurs et des dépollueurs est jamais assez fin. Il reste toujours beaucoup d'éléments, notamment quelques hydrocarbures, l'amiante.
Ouais, c'est ça. Ouais. La dépollution passe avant vous, bien évidemment. La dépollution du terrain, j'entends. On parle pas du bâtiment, pas de la structure, parce qu'elle a disparu. Après, il y a aussi une dépollution au niveau du terrain. Ça passe avant.
Disons qu'on est passé en même temps. Avant la fouille actuelle, il y a eu une autre opération de fouille, mais qui avait pris la forme d'un suivi de travaux. On avait accompagné l'entreprise de démolition pour veiller à ce qu'ils démolissent pas plus que nécessaire. On démolit les bâtiments des années 60, ce qui est plus ancien, il fallait pas y toucher, c'était le jeu. Donc on était là pour les freiner quelque part, et du coup pour surveiller et documenter au fur et à mesure ce qu'ils mettaient au jour. Mais donc on a accompagné effectivement le processus de démolition.
Dans les années 90, il y a eu la construction de la maternité. À cette époque, là, pour le coup, des fouilles avaient été réalisées et la découverte des thermes, c'est ça.
Les fameux thermes d'Évreux qui, à l'époque, avaient fait couler beaucoup d'encre.
Alors, vous pouvez nous en dire deux mots, justement?
Avec plaisir. Moi, à l'époque, j'étais trop jeune, évidemment, j'ai pas fouillé là-dessus. Enfin, évidemment, les gens ne me voient pas, donc ils ne peuvent pas parler de mon âge. Mais non, j'étais pas encore actif. La fouille, en fait, avait été faite en préalable à la construction de la maternité.
Oui.
Donc, les vestiges avaient été découverts. C'était une fouille d'urgence. Ils avaient fouillé à l'époque la quasi-intégralité du bloc thermal, donc avec la piscine, les pièces froides, tièdes et chaudes. Et à l'époque, ils avaient été limités en plan par l'emprise du futur bâtiment. Ils n'avaient pas pu fouiller l'intégralité du bâtiment. Manquait à l'appel un élément essentiel d'un édifice thermal, la palestre. Ce grand espace à ciel ouvert, cette cour, en fait, généralement entourée de portiques à colonnes, dans laquelle on pouvait pratiquer de diverses activités sportives avant d'aller se laver. Ils avaient supposé à l'époque que cette palestre se trouvait au nord, donc en direction de l'hôpital. Et en 2011, moi, j'avais déjà fait des investigations, donc un diagnostic, on appelle ça un diagnostic. J'avais eu des éléments qui permettaient de confirmer l'hypothèse de la palestre, en tout cas de l'affermir.
Oui.
Et là, lors des suivis de démolition, on a trouvé d'autres vestiges qui confirment pleinement. Donc on sait que lors des fouilles à venir, donc à partir du printemps prochain, on va mettre au jour l'extrémité de la palestre. Donc on va compléter le plan des thermes d'Évreux.
Donc la continuité, la suite et fin de ces premières fouilles dans les années 90, en dessous de cette
30 ans après.
Cette ancienne maternité.
Aujourd'hui, ça a été réhabilité. Ce sont
des logements pour les étudiants,
effectivement.
Je crois.
Mais les vestiges des thermes sont toujours présents sous le bâtiment.
Ouais.
À l'époque, le plan d'architecte avait été modifié pour préserver les vestiges.
Très bien, ça fait partie aussi de l'histoire, ça. C'est toujours intéressant de connaître un petit peu comment ça se déroule, comment ça se passe. Et donc, je vous rappelle, ce matin, c'est Pierre Vech qui s'y colle de la mission archéologique de l'Eure pour nous parler archéologie, fouille sur le site Saint-Louis, ancien hôpital d'Évreux. Avec cette journée porte ouverte, alors c'était sur réservation, visiblement, il y a beaucoup de monde, c'est un peu. Mais Pierre, merci de nous informer, de nous annoncer que il y aura d'autres journées de journées de ce type, journée porte ouverte.
Surtout, n'hésitez pas à appeler parce qu'en fonction des retours et du nombre d'appels, on sera amené à organiser d'autres visites. Donc plus vous serez nombreux à appeler, même si les visites de samedi sont déjà bouclées quasiment, plus vous serez nombreux et plus on sera susceptible de faire des visites de ce type.
Allez, une pause musicale un petit peu rigolote. C'est pas Didier Super, mais ce sont des Nantais, Rennais Nantais. Bah, ça vient de là-bas. Ça s'appelle Gwendoline.
Des photos de vacances à la mer. J'en ai rien à foutre. Des posters de Michel Drucker. J'en ai rien à foutre. Des nouvelles chaussures pour me plaire. J'en ai rien à foutre. Des petits problèmes de ton frère. J'en ai rien à foutre. Des maladies alimentaires.
La poubelle qui déborde, j'en ai rien à foutre. J'ai plus rien à bouffer, j'en ai rien à foutre. Le centre c'est pas loin, j'en ai rien à foutre. Y'a Nico qui passe à la télé, j'en ai rien à foutre. Y'a des promos sur les chaussures blanches, j'en ai rien à foutre. Y'a des concerts ce soir, j'en ai rien à foutre. Y'a une teuf chez Grégoire, j'en ai rien à foutre.
Mais j'en ai rien à foutre. Bah ouais, Gwendoline, les chevaliers Ricard.
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy.
Le pire reste à venir.
Oui, 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 le pire reste à venir. Mais on est bien là, on est bien, on est très très bien. Nous sommes en compagnie de Pierre Vèche qui nous parle ce matin de fouilles archéologiques, notamment du site de Saint-Louis, mais pas que du site Saint-Louis, parce que effectivement, bah, Évreux, dans Évreux, il y a d'autres fouilles, un petit peu partout d'ailleurs. Partout. Et voilà, par exemple, où est-ce qu'on peut retrouver nos amis archéologues qui fouillent un peu
Actuellement, sur Saint-Louis, effectivement, bon, parce que d'accord. C'est l'opération en cours, mais moi, personnellement, ça fait 12 ans que je fais des trous sur Évreux un peu partout.
c'est un vrai gruyère.
Hein. C'est devenu un vrai gruyère avec le temps. Notamment, il y a quelques années, on avait suivi les travaux d'aménagement de la place Septmontville. Je pense que les Ébrouissiens ont vu qu'il y avait eu 2-3 changements dans le secteur de la place Septmontville.
Alors, on rappelle un petit peu la place Septmontville pour...
Elle est juste derrière l'hôtel de ville. C'était l'ancienne gare routière, le parking. Aujourd'hui, c'est un jardin avec le liton qui a été mis à ciel ouvert.
Tout à fait. Le port de Plaisance.
C'est une idée reçue. Il y a eu à l'époque un collègue archéologue qui a dû avoir un mot malheureux. Il n'y a jamais. Alors j'en profite, j'ai l'antenne. Il n'y a jamais eu de port place Septmontville.
Ah bon, ben voilà, ça c'est dit, c'est fait. C'est important de le dire.
Non. Par contre, on avait sur la place Septmontville un moulin qui existe au moins depuis le XIIIe siècle, et dans le bassin qui permettait au moulin de fonctionner lors des suivis de travaux, on a mis au jour un grand nombre d'objets en cuir, ce qui est assez exceptionnel. Et pour ceux que ça intéresse, sachez qu'on est en train de préparer avec le musée d'Evreux une vitrine d'actualité qui devrait ouvrir au printemps, si je ne m'abuse, et qui va présenter les plus belles pièces avec toutes les explications.
Découvertes sur ce site.
Voilà. Exactement. Ah,
ouais. Et principalement des pièces en cuir.
Voilà, parce que c'est des choses qui sont très rarement conservées. Le cuir se dégrade à l'air libre.
Oui.
Et le fait que ça a été conservé, enfoui dans un niveau humide, imbibé d'eau en permanence.
Protégé.
Voilà, c'est protégé.
Bon. Des vêtements, on peut trouver aussi des vêtements.
Alors, on a notamment un dos de cuirasse au sens premier du terme, un vêtement en cuir. On a des éléments de gants, on a des chaussures, on a des morceaux de ceinture. On a tout un panel. C'est pour le coup, c'est. Alors, je ne vais pas dire exceptionnel, c'est un peu pompeux, mais c'est très rare.
On sait quelle était la mode des Hébroïciens, comment le terme exact, redites-moi vite, j'ai perdu les Olercis.
Les Olercis et Burovis. Alors là, pour le coup, les éléments en cuir de la place Hébronville sont plus récents. Malheureusement, j'aurais bien aimé trouver des vêtements gallo-romains, ouais. Ça, c'est encore plus rare.
Plus chez les Mérovingiens.
Là, on est encore plus récent. On est au 14e, 15e siècle.
Ah oui, c'était avant-hier, quoi.
Du point de vue de l'archéologue, oui, mais ça reste très intéressant quand même.
Tout à fait, absolument.
Non, alors à l'époque, on est à la fin du Moyen-Âge, et nos ancêtres portaient des poulaines notamment. Vous savez, ce sont ces chaussures à bout très pointus qu'on voit sur les illustrations de l'époque, qu'on voit dans les films également d'époque, donc des chaussures à bout extrêmement pointues.
Ouais. Donc, les ancêtres des Santiago, en fait, non?
Voilà, c'est ça. Exactement.
Parce que Évreux est une ville très rock.
Tout à fait.
Forcément. Donc on sait comment s'habillaient nos aïeux.
Nos aïeux, tout simplement.
Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait est-ce qu'il y a des petites choses qu'on aurait oubliées de dire? Parce que effectivement, en antenne, on parlait de ce lien, de cette association avec le musée. Enfin voilà, ce partenariat. Vous travaillez avec d'autres partenaires, d'autres.
De façon moins régulière, mais oui, on travaille également. On a travaillé à une époque, on a fait des choses avec la Fabrique des Savoirs à Elbeuf.
Ouais.
Donc on travaille beaucoup, effectivement, autant que faire se peut, avec d'autres partenaires culturel, mais le musée d'Evreux, de par la proximité qu'on a avec eux, et effectivement, c'est un partenaire privilégié. Et on travaille notamment, pour revenir sur le site Saint-Louis, la visite de samedi.
Oui.
Il y aura d'autres visites prévues le 14 avril, si je ne dis pas de bêtises, et d'autres visites prévues pour les Journées européennes de l'archéologie en juin prochain, où là, on va faire une manifestation en commun sur le site Saint-Louis avec les gens du musée de la ville d'Evreux.
D'accord, très bien. On parle de principalement d'Evreux, Gisacum, bien évidemment, mais est-ce qu'il existe d'autres sites à la périphérie hébroïcienne ou et puis ma deuxième question, ce sera sur le département de l'Eure, par exemple, est-ce que c'est vraiment Evreux où il y a le plus de vestiges gallo-romains, mérovingiens, etc.
Evreux est un peu l'arbre qui masque la forêt parce que c'est une ville. Alors, il y a beaucoup d'aménagements, on trouve beaucoup de choses, mais non, il y a des vestiges potentiellement partout,
ouais.
Alors plus ou moins discrets. Tous très intéressants, mais plus ou moins discrets. Mais non, il y a des sites partout, de toutes les époques. Depuis les dizaines de milliers d'années que l'homme occupe ce territoire, il a essaimé. Donc, alors des fois, c'est un silex taillé, c'est pas forcément évident à identifier, mais il y en a partout. En périphérie d'Evreux, pour vous donner un exemple tout simple, lorsque la zone commerciale du Longbuisson s'est étendue il y a quelques années, c'est relativement récent, on a procédé à une fouille juste à côté d'un magasin d'électroménager, dont je ne peux pas citer la marque, et on a étudié, on a mis au jour les vestiges d'un manoir qui datait des années 1500. Donc le manoir du Longbuisson, et manoir qui avait été détruit dans les années 1950. Donc il y en a potentiellement partout autour d'Evreux, et même sur tout le territoire départemental, mais on ne le soupçonne généralement pas parce qu'il n'y a pas de vestiges qui émergent du sol. On est là pour les mettre au jour.
Très bien. On est pratiquement à la moitié des fouilles archéologiques.
On a fait un bon tiers.
On a fait un bon tiers. Ouais. Il reste encore un petit... Oui, voilà, il reste... On a dit 18 mois tout à l'heure. On a dit, effectivement, là, les archéologues sont là pendant un an et demi sur le site de Saint-Louis. Est-ce qu'il y a des projets ou d'autres, vous allez intervenir par rapport aux demandes en fait.
Oui, c'est exactement ça.
Ah, c'est ça.
On répond à des sollicitations.
Des sollicitations, ouais. Et là, là après, est-ce que vous savez après Saint-Louis où est-ce que vous irez ou
À titre personnel, non. Je pense que d'abord, une fois qu'on aura fini la fouille de 18 mois, on a une obligation, c'est qu'on doit rendre un rapport. Il faut qu'on rende une trace écrite, détaillée de tout ce qu'on aura observé parce que.
Donc c'est la deuxième phase.
On le détruit au fur et à mesure. Donc la seule trace qui va rester des fouilles, c'est ce qu'on va rendre, un dossier technique qu'on va rendre.
Ouais. Et donc ça se présente comment sous forme de c'est écrit sur, on peut aller, on peut aller le consulter sur internet.
Alors, c'est des choses qu'on peut transmettre à la demande, mais alors, ce sont des documents qui sont rendus au service régional de l'archéologie, qui sont consultables par tout un chacun. Il y a des centaines de rapports d'opérations archéologiques qui sont accessibles. Alors malheureusement, le SRA, donc le service régional de l'archéologie, se trouve à Rouen. Faut juste se déplacer un petit peu. Donc, pour les auditeurs de Rouen, sachez que ça se trouve à la préfecture de région.
Sur les internets, on trouve pratiquement tout. Hein. Et je voyais par rapport aux éditions Presse universitaire de Rouen et du Havre, les journées, par exemple, les journées archéo, je fais quelques relevés, les journées archéo de Haute-Normandie, ça date de 2012.
Alors, c'est un événement annuel, en fait, les journées archéologiques régionales. Donc, tous les ans, c'est organisé par le SRA, le fameux service régional. Et les acteurs de l'archéologie régionale sont invités à venir communiquer sur les fouilles les plus récentes. Ouais. C'est une journée d'études, mais qui est ouverte à tout le monde. Chacun est libre de venir écouter tel ou tel conférencier, évoquer qui sa fouille d'Evreux, qui sa fouille sur le château de Caen, qui la ferme gauloise de Pitre, ou etc. etc. Il y a énormément de chantiers qui se font dans toute la région, et les gens sont les bienvenus pour venir nous écouter et nous poser les questions qu'ils souhaitent.
Eh ben très bien. Bon, on refait une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après ça.
The right.
Love on Hate in Different Times, c'était Gabriel.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans être... Oui.
Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Et HDR et principe actif en direct, la matinale du matin qui va bien, le pire reste à venir, 8h, 9h, rediffusion pour les leftards à 11h, c'est nous, c'est bien nous, hein, c'est nous Pierre.
Tout à fait.
Hein, il fait bon ici, le petit café, il fait bon, on est bien au chaud, à la différence des collègues qui sont en train de fouiller sur le site archéologique Saint-Louis, mais pas que, on a abordé, c'était la thématique de la matinale, hein, de ce matin, c'était ça.
Saint-Louis était la porte d'entrée, puis on a déroulé le fil.
Eh ben voilà, exactement. On est pratiquement voisins en plus, hein, puisque les studios de Principe Actif sont pas si loin.
Il faut passer nous voir.
Eh ben, avec plaisir. Sinon, nous, on a repéré des choses là ici. Là, si on quand on gratte un peu là, on a une espèce de mur en silex. Rien dire, sinon ils vont venir avec. Faire des fouilles et puis on n'aura plus de studio.
Il y aura fouille seulement s'il y a un projet d'aménagement.
Si
vous détruisez pas le vestige, j'ai pas raison de le fouiller.
Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes intervenu juste à côté. On est à côté aussi de l'ancien hôtel de
effectivement,
Évreux Port de Normandie, de l'ancienne voilà. C'est ça. EPN quoi. Hein. D'ailleurs, vous êtes EPN, c'est le porteur de projet, c'est ça.
Effectivement, le projet de la ZAC Saint-Louis, c'est EPN qui le porte. Donc ils ont c'est un très grand projet urbain. Là, après, il appartiendra à EPN d'en dévoiler le détail aux ébrouissiers intéressés. Je sais déjà, ils ont déjà parlé du fait qu'il y aurait l'école d'infirmières l'IFSI qui allait s'installer sur le site Saint-Louis, mais c'est un énorme projet de quasiment 5 hectares en centre-ville, ce qui est gigantesque. Et la ville EPN ont délégué la maîtrise d'ouvrage à nos amis de la Schema, donc c'est un syndicat d'économie mixte qui est canné.
D'accord.
Et concrètement, c'est un projet qui se fait en grande partie avec les financements du plan de relance.
Oui. Dont on a pour donner de la vie donc dans ce bassin ici, là, donc comme vous le disiez, effectivement, un site intergénérationnel avec une école d'infirmières, je crois, une petite, une école de petits et grands. Une maison pour nos seniors.
J'ai entendu beaucoup de choses. Effectivement, ce sera, il y aura beaucoup de choses différentes qui vont se mêler. C'est un vrai quartier qui va être créé. Je pense que ça va donner un petit souffle nouveau au centre-ville. Ce sera bien.
Eh ben voilà. Ben on en reparlera dans 2000 ans hein, quand on fera des fouilles.
Voilà, avec plaisir. Vous me ressentirez du placard à ce moment-là.
Exactement. Très très bien. Ben écoutez, c'était un plaisir, Pierre Vey. Je vous rappelle que vous êtes donc responsable d'opération à la mission archéologique de l'Eure. Vous et vos collègues, si on veut venir vous voir, ben on peut passer vous faire un coucou. Dans la semaine. Mais surtout,
on ne mord personne.
Ouais. C'est surtout samedi. Alors samedi, il y a déjà une porte ouverte, mais bon, il y a déjà du monde qui s'y est inscrit. Il y a d'autres dates, il y aura d'autres dates sur le site. Si on est passionné ou si ça nous intéresse, on peut aussi aller faire un tour du côté de Gisacum, là-haut, du côté du Vieil Évreux, puisque vous le disiez tout à l'heure, les fouilles vont redémarrer.
Le site touristique, la partie visitable rouvre au 1er mars.
Au 1er mars, au printemps.
Les fouilles redémarreront en juin.
À la fin de l'hiver, on peut aller faire un tour, et puis les fouilles donc cet été également. Et puis il y a d'autres endroits dans Évreux. On le rappelle, notamment place Septmanville. Pour le coup, c'est terminé.
Les fouilles sont terminées, mais si vous allez sur l'emprise de l'ancienne Barbacane, l'ouvrage fortifié avancé, il y a des panneaux explicatifs qu'on a rédigés avec les gens de la ville qui expliquent une partie des choses qu'on a découvertes.
Très bien. On peut aller aussi faire un tour du côté du musée.
Exactement. Il ne faut pas hésiter, au contraire.
Ben non,
très beau musée, Évreux.
Et ben exactement. Et puis là, on voit aussi les vestiges. On peut se rendre compte de tout ce qui a été découvert et comment on s'habillait, comment on vivait au deuxième siècle ou au troisième siècle, quatrième siècle, cinquième, enfin bon,
sur toute la période concernée, effectivement.
Exactement, tout à fait. En tous les cas, ce fut un plaisir de vous avoir.
Merci pour l'invitation.
Merci à vous. épisode. Nous sommes donc aujourd'hui mardi, donc pour les émissions à l'écoute de Principe Actif, ce soir vous retrouverez le laboratoire. Est-ce qu'il y a la Calédérie Rythmo? Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a nos amis de Vénus? Je ne sais plus. Oh là 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 là. Demain en tous les cas, la matinale, ça je sais, c'est l'ami Mosquito du côté de Rouen HDR qui prend le relais. Et puis en fin de semaine, eh bien Deux et Vincent seront aux manettes, aux commandes de la matinale. Quant à moi, je vous salue bien bas et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes. Bonne journée à tous à l'écoute des programmes de Principe Actif et de Rouen HDR.